bonjour à chacun et à chacune, et que le beau, précieux nom de Jésus-Christ vraiment fasse son œuvre dans nos cœurs. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent un peu en ce moment, hein, dans mon cœur, là. Avec ce début de culte, c'est pas mon sujet, mais je crois qu'il y a un besoin au milieu de nous de connaître l'amour du Père. On le chante, j'ai pris tout à l'heure la feuille. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, comme Job, créateur de la vie, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. On a besoin du Père, on a besoin de connaître le Père. Il y a quelque chose qui pèse sur mon cœur. Il y a beaucoup de choses connues intellectuellement. On a même lu la Bible, on connaît la théorie du salut. La théorie du salut, Jésus-Christ est mort pour mes péchés à la croix. D'accord, donc je suis purifié. Jean-Luc nous a donné en ouverture ce passage de Job. C'est terrible ce livre, 42 chapitres autour de la question finalement de la propre justice. Quand on dit j'ai été justifié, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu me voit juste avec aucune œuvre. Je vais parler peut-être des œuvres de la foi, mais avec aucune œuvre. Nous croyons que nous sommes justifiés par la confiance en l'œuvre de Jésus-Christ, sans aucune œuvre. Alors vous allez me dire, mais Robert, mais c'est la base, si on est là, c'est parce qu'on a compris ça. Pas si sûr, quand on voit tant de vies qui essayent encore, mais peut-être moi le premier des fois, si j'en parle, c'est parce que je veux bien que le Seigneur. Nous sommes justes, comprenez, le Père nous voit juste. Il voit Timothée juste, alors il peut s'approcher. Mais on le fait si peu de venir au Père. Jésus-Christ, il est venu pour nous ouvrir le chemin et nous faire découvrir, enlever le mensonge qu'un espèce de Dieu qui écrase. Non, c'est notre Père, voilà ce que fait Jésus-Christ. Il est venu que pour ça. Il est venu pour ça. C'est énorme. Et comme le péché nous séparait, eh bien, il a été fait péché pour nous. Comme il y avait des malédictions sur nos vies, il y a des malédictions sur les vies. Je vous donne une bonne nouvelle. Jésus-Christ a été fait malédiction à la croix pour nous. On a lu Romains 8, on n'a pas lu le début. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sommes-nous en Jésus-Christ ? Sommes-nous en Jésus-Christ ? Avons-nous cru ? Ce n'est pas des démonstrations. Ce n'est pas une question émotionnelle. Par la foi, par la confiance. Jésus est venu sur cette terre. Il est demeuré Dieu. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à nos chants. Il y a un chant, on dit il a quitté la divinité. Il n'a pas quitté la divinité. Jésus-Christ est Dieu, il est toujours Dieu. Il ne meurt pas, il est Dieu. Le corps est mort, mais par la puissance de l'Esprit, il est ressuscité. Par sa mort, nous sommes réconciliés. Par sa résurrection, nous sommes vus justes et reconnus justes par le Père. Le Père nous dit, viens maintenant, tu as accès. Et nous avons ce verset pour l'année, défrichez-vous un champ nouveau. Juste derrière, c'est précédé de semer selon la justice, moissonner, vous moissonnerez selon la miséricorde. Et juste après, cherchez. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel, le Père éternel, celui dans lequel il n'y a aucune ombre de variation, qui nous aime. Nous avons besoin de reconnaître, nous avons besoin d'amour, frères et sœurs. Notre communauté a besoin d'amour. Et je sais qu'il y a plein de bonne volonté, je vais en reparler. On veut s'aimer les uns les autres. Mais si nous-mêmes, nous ne savons pas aimer du Père, aimé, il nous prend dans ses bras. Beaucoup ont besoin d'être pris dans des bras d'un père. Il y a trop d'orphelins. Il y a trop d'orphelins. Nous avons besoin d'être pris dans les bras du père. Et entendre, mais je t'aime, mon enfant. Je t'aime parce que je t'aime. Je t'aime parce que je t'ai créé, parce que je t'aime. Alors, frères et sœurs, on va pouvoir entrer dans des œuvres qu'il a préparées. Mais aucune œuvre ne fera qu'il nous aimera plus. Aucune. Rien. Rien. Aucune œuvre qu'on pourra faire, aucun effort qu'on pourra faire ne fera qu'il nous aimera plus. C'est une invitation à ce qu'on... On laisse tomber ce matin. On laisse tomber. On n'a pas besoin de tout comprendre pour laisser tomber. Peut-être à un moment, il faut d'ailleurs dire « je ne comprends plus rien ». J'abandonne, je laisse tomber. Mais lui, il ne nous laisse pas tomber. Rien, rien, rien. Et rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Ne compliquons pas la parole, ne nous adressons pas. On a accès au Père par Jésus-Christ, le seul médiateur. Il n'y en a pas d'autre, n'en cherchez pas d'autre, n'en inventez pas d'autre. C'est Jésus-Christ qui est vivant, qui est ressuscité, qui a été mort. Mais maintenant, il est vivant, il est élevé, il règne. Et nous sommes au bénéfice de cela. Et nous sommes au bénéfice de cela. J'allais dire, j'ai terminé ce matin. Parce que, mais oui, frères et sœurs, parce que on a besoin de ça. On a besoin de ça. Sinon, on va bricoler. Vous savez, je vais quand même vous parler un peu de peut-être des œuvres de la foi. Mais moi, je vais tout vous dire. Nous avons passé il y a 15 jours, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne dirai pas tout, je dirai une autre, un dimanche. Il y a 10 jours, c'était samedi le 4, là, on était une cinquantaine, soixantaine, je l'ai rappelé dimanche dernier, et nous avons passé un temps vraiment... moi, j'étais dans la joie, c'était simple, j'ai senti que c'était vrai. Des fois, il y a des trucs comme ça, on se dit, c'est vrai. Et puis, il y a eu beaucoup de cœur, je crois, beaucoup de bonne volonté, beaucoup de cœur, des propositions. Notre assemblée, elle a envie de bénir le monde qui nous entoure. On n'aime pas l'esprit du monde, mais on peut qu'on soit comme le Seigneur qui dit, il a tant aimé le monde, il a tant aimé les personnes de ce monde. Mais il n'a pas aimé l'esprit du monde et nous invite à ne pas aimer l'esprit du monde. On a autre chose, c'est l'esprit du royaume. On a chanté la paix, la joie, l'amour. Jean-Luc avait introduit avec la question de la justice. Justice, paix et joie et amour par le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'atmosphère du royaume. Et c'est notre but, manifester le royaume. Manifester le royaume déjà entre nous, frères et sœurs. Je sais qu'il y a un discours ambiant dans nos milieux. On dit, ah, il faut sortir des églises. Oui, il faut sortir des églises, il faut manifester le royaume. Mais je rappelle que la plupart d'entre nous est sorti de l'église du bocal, puisqu'il y en a même... Moi, ça me fait un peu mal, je vais vous dire. Hein. On parle du bocal. Oui, ben, on est rassemblés ensemble. Mais les chrétiens n'auraient pas le droit de se rassembler. Je crois, attention, il peut y avoir une grosse séduction là. Il faut que les chrétiens ils aillent. Mais s'ils ne sont pas ressourcés, s'ils ne viennent pas ensemble pour rendre un culte à Dieu, quelle force ils ont? Ils n'en ont pas. Rien. Ils vont être bouffés par le monde. Je vous le dis comme je le pense. Je pense qu'il peut y avoir une séduction. Alors, je ne jette pas tout le bébé avec l'eau du bain, mais soyons clairs. Les chrétiens, ils ont besoin de se retrouver ensemble pour rendre un culte à Dieu, pour honorer le Père, pour honorer le Fils par le Saint-Esprit. Pour honorer le Père, pour honorer le Fils par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le serviteur, celui qui vient convaincre de péché, de justice et de jugement, et celui qui fait naître une louange dans nos cœurs pour honorer le Père en esprit et en vérité. Si ce n'est pas les chrétiens qui se rassemblent pour le faire, qui va le faire? Qui va le faire? Des religieux? Tout un tas de croyances qui vont se rassembler? Non. Les chrétiens, nés de nouveau, qui ont été convaincus de péché, baptisés de l'esprit, alors ils vont rendre un culte en vérité. Un peuple qui lui appartienne. les autres nations font, mais à vous, cela n'est pas permis. Oui, il y a des choses qui ne nous sont pas permises. Nous avons à honorer le Père. Alors si nous sommes ressourcés, si nous sommes lavés, si nous sommes fortifiés, si nous marchons à la lumière entre nous, alors nous aurons un impact. Nous aurons un impact. Alors nous pourrons entendre ce message, allez, allez. Et parce que là où vous êtes, là vous allez impacter. Vous allez impacter. Vous allez impacter. Mais si on y va avec nos plaies rentrées, nos plaies non traitées, nos plaies non lavées, nos plaies non purifiées, qu'est-ce qu'on va les bricoler? On va se faire ramasser. Frères et sœurs, oui, on a entendu quelque part cette parole, défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau, mais pas n'importe comment. Et on va avoir à apprendre davantage à se frotter, à s'humilier les uns par rapport aux autres. Là, il va y avoir une force. Là, il va y avoir quelque chose. Là, va y avoir l'huile. Je vous rappelle que dans à peu près, je ne peux pas développer ça, mais partout, ou même dans l'Ancien Testament, quand Aaron, a préparé ses fils pour être sacrificateur, d'abord le sang, puis l'huile, d'abord la croix, d'abord l'abandon de la propre volonté, d'abord la consécration, et alors, oui, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est quoi la puissance du Saint-Esprit? Parce qu'il est dit aussi, ni par force, ni par puissance, ni par la puissance des chevaux ou des chars, mais par mon esprit. Donc c'est aussi, la puissance du Saint-Esprit, c'est aussi un esprit de douceur, un esprit qui vient impacter, qui vient toucher un cœur, des actions éternelles qui ne se voient pas à l'œil nu. C'est tout ça, quoi. Le Père, on a besoin du Père. On a besoin du Père. On a besoin du Père qui va nous inonder de son amour. Alors on va pouvoir abandonner aussi. Ça va nous aider à pardonner. Parce que le non-pardon, ça s'appelle la haine. Et quand il y a la haine, il y a des choses qui s'ouvrent et c'est vraiment pas bon. Et ça empoisonne nos vies, ça bloque nos vies. Je voulais vous parler des œuvres de la foi. Je vais vous parler un petit peu des œuvres de la foi. Je vous parlerai peut-être une prochaine fois de... Ou alors, en quelques mots, vous savez que nous sommes allés avec Jean-Luc. Je ne vais pas aller seul, on va toujours au moins à deux. À cette pastorale. Alors, pourquoi les pastorales? C'est intéressant, ça, dans le fond. Donc, c'est une pastorale à Grenoble. Nous avions en fait deux temps de pastorale, un temps avec les frères et différents responsables de la fédération à laquelle nous appartenons. Hein. Je crois que c'est important, on a eu l'occasion d'en discuter. On est reliés, on a des liaisons intra-corps locales, et puis il faut qu'il y ait des liaisons aussi. Hein. Certains ont vu mon petit schéma la semaine dernière. Il faut qu'on ait des liaisons avec le reste du corps de Christ. Hein. En vérité, l'amour et dans la vérité. Des fois, on balance cette phrase un peu vite, mais c'est courageux pour vivre dans l'amour et la vérité. Hein. Bon. Donc, on a une pastorale niveau Fédération des Églises du plein évangile en francophonie. Nous sommes 70, 80. C'est un temps beaucoup de communion fraternelle, c'est un temps de connexion aussi. Hein. Vous voyez, c'est à travers des temps comme ça. Par exemple, on a eu Pascal Bonaz, mais on en aura d'autres qui viendront. Hein. Et puis, je vous dirais un peu, Jean Berthaud, qui est pasteur principal de l'église apostolique sur Toulouse, nous a partagé un message que je vous livrerai. Il était adressé au conducteur d'église, mais moi je crois que c'est important qu'on se le partage. Et puis, ensuite, il y a une pastorale, on va dire, un peu interdénominationnelle. Il y a différentes fédérations qui se retrouvent. Et là, il y avait essentiellement trois intervenants. Je vais vous dire ça rapidement. Que je ne vais pas tout reprendre. Il y avait Dany Silk, qui est pasteur et un des responsables de l'église de Bethel en Californie. C'est une église dont on parle beaucoup à différents titres. Il nous a parlé précisément, oui, de l'honneur. Hein.
Vous savez que ces versets dans la Bible, honneur, c'est important. Honorer les rois, ceux qui sont élevés en dignité. On a du mal avec ça dans notre pays. Hein. Et puis ça se termine, honorer tout le monde. Et bon, il a beaucoup insisté là-dessus, comment ça tout le monde, même celui qui nous a quand même pompé l'air, offensé depuis des années et qui ne s'est toujours pas repenti. Oui, honorer tout le monde. Bon, c'est pas facile cette affaire-là. Hein. Il a beaucoup développé ça. Il y avait ensuite Jean-Luc Traxel, qui est un ministère, un évangéliste. voilà. Et nous avons eu Thierry Le Gall, peut-être certains connaissent Thierry Le Gall. Et aujourd'hui, et je voulais m'arrêter un petit instant là-dessus, il est donc au niveau du CNEF, du Conseil national des évangéliques de France, il est aujourd'hui responsable du service pastoral auprès des parlementaires. Et il a eu une intervention qui, moi, personnellement, m'a beaucoup touché. Des fois, j'ai un peu de réserve. Mais là, on sent un homme, un serviteur de Dieu, qui est pile poil à sa place. Il était, avant de se consacrer à plein temps au service du Seigneur, il était directeur de la communication chez Ferrero. Alors là, Ferrero, je sais que tout le monde connaît. Et ensuite, pasteur, je crois, une dizaine d'années du côté dans les Côtes d'Armor. Et puis, il a donc été sollicité pour être responsable de la communication au niveau du CNEF. Il a fait vraiment un travail important de fondation. Et depuis un an, il est responsable du service pastoral auprès des parlementaires. Et il nous a témoigné vraiment dans ces temps. Donc, il est en contact aussi en ce moment avec toutes les équipes de campagne des différents candidats. Et depuis qu'il a pris ce service, il a rencontré 70 parlementaires. Quand je dis rencontré en tête à tête. Et il nous a dit, ben voilà, il y a plusieurs parlementaires qui sont vraiment des craignants Dieu. J'aime bien cette expression qui était employée dans l'Ancien Testament. Des craignants Dieu, des hommes qui savent, qui sont... Vous savez, nos parlementaires sont... plus quoi faire. Et il a pu prier pour plus d'une dizaine, à la demande des parlementaires. À la demande des parlementaires. Il a pu prier pour eux. Donc il y a vraiment quelque chose là d'important. Vous savez, ce qui se passe en ce moment, c'est, pour moi c'est intéressant. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aucun pourra dire « moi j'avais prévu, moi j'avais compris ». En ce moment là, je veux dire, franchement, entre les primaires, les machins, les sondages, les trucs, il y a une chose qui est sûre. Alors ça commence à me parler de Dieu. C'est lui qui donne les autorités. C'est pas un découragement à aller voter, hein, je vais aller voter. Moi. Mais c'est lui. Vous savez, on jette les dés dans le pan du manteau, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Voilà, et puis on a eu aussi une intervention de Robert Desprez, qui est dans le Nord, et qui, voilà. Alors ça, j'aime aussi ces choses-là. Robert Desprez, donc, est pasteur dans le Nord de la France, et à un moment, il y a eu cette histoire de la plateforme, là, qui a été démantelée, hein, pour les migrants, et eux, ils ont été interpellés. Donc ils étaient, en fait... déjà installé au niveau de cette plateforme avec une espèce de permanence. Quand ça a été démantelé, ben on a commencé par démanteler la tente qu'ils avaient là au milieu, mais ils ont continué cette œuvre. Et là, ça me touche parce que, eh bien oui, ils sont dans le Nord, ils sont concernés. Eh bien, Dieu les appelle là. Ils ne sont pas en train d'exporter un modèle pour savoir ce qu'il faut faire pour les migrants. Eux, leur situation, ça a été ça. Ils ont traité ce que Dieu a mis devant leur partie de la muraille qu'ils ont à restaurer et à construire. Une chose importante là, nous avons à chercher, et c'est ce que nous avons fait, je vais enchaîner, nous, assembler un troupeau qui est là, à la Bonne Nouvelle, quartier de Clonay, à Rennes. Seigneur, que veux-tu que l'on fasse? Ah mais Seigneur, là-bas ils font ça, faut faire ça. J'en sais rien. Que veux-tu? On est là, à Clonay. Il y a une chose qu'on sait. C'est moi qui vous le dis. Vous savez, moi, personnellement, j'aurais plutôt une politique d'achat pour les locaux. Bon, c'est comme ça, sans doute un propriétaire, bon, je le confesse.
On est locataire, vous savez, ici. Mais une chose qu'on sait, c'est que c'est le Seigneur qui nous y a mis. Ça, c'est sûr. Moi, j'en parle d'autant plus que je n'ai pas été dans les décisions et les concertations. Mais il y a quelque chose qui atteste que c'est là qu'on doit être. Bon, ben voilà, un problème de régler. On a pu se poser la question. Mais la question, on va se poser, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous ? Alors, il y a 8 jours, donc, nous nous retrouvions, on était une cinquantaine, autour de 3 thèmes. Le thème général, c'était manifester le royaume, la justice, la paix, la joie, l'amour par le Saint-Esprit. Et trois ateliers sont sortis assez clairement dans l'équipe de préparation. Il y avait l'aide et le soutien au loin, l'aide et le soutien au près, et l'évangélisation. Donc il y a eu 3 ateliers. Ceux qui participaient ont pu participer à 2 ateliers. C'était compliqué de faire 3. On a pris du temps, mais c'était bien. Hein, on était contents aussi de se retrouver. Et je crois que c'est peut-être une des dimensions importantes de cet après-midi-là. Il y a eu une vraie joie manifeste à se retrouver, à échanger, à partager. Alors, nous souhaitons entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, les œuvres de la foi. Je rappelle, mais je vais être court puisque je l'ai quelque part fait en introduction, rappelle que le salut est, lui, sans les œuvres. Je le rappelle, je le redis, c'est trop important, que personne, je dis ça parce que personne ne dise « mais je vais m'engager, etc. » s'il reste quelque chose comme ça là-dedans. Surtout pas. Ce serait de la paille, ce serait brûlé au feu, ça ne servira à rien. Vous ne seriez pas plus ou pas moins sauvé. Simplement, au jour des récompenses, vous risquez d'être sauvé au travers du feu. Donc, gardons-nous, que chacun médite là-dessus. Seigneur, quelles sont mes motivations dans ce dans quoi je vais m'engager ? Et je compte bien que beaucoup s'engagent. Donc, le salut est sans les œuvres. Par contre, la foi, elle, quand on est... Notre vie, elle est changée. Normalement, il se passe quelque chose. Ça change nos comportements et ça nous pousse à des œuvres. Alors, on va lire dans Jacques 1. Dans Jacques 1. Alors, vous savez, c'est Calvin qui, je crois, a appelé cette épître une épître de paille. C'est-à-dire, oh, à côté des épîtres de Paul, où là, il y a vraiment une auteur spirituel, etc. Moi, je reconnais... Écoutez, je vais confesser, j'étais un peu comme lui. Je disais, Jacques, moi, je viens d'une religion d'œuvre, alors... Bon, ben, que voulez-vous ? Le Seigneur, il travaille, on va revenir à lire Jacques. Hein. Jacques, on va lire... Vous pourriez tout lire comme d'habitude, mais bon. Je vais lire à partir du verset 22. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, c'est curieux cette expression, tout excès de malice, ça veut dire que, vous pourrez en rester un peu ? Oh, c'est curieux ça. Bon, Jacques qui connaît les brebis. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, on est invité à une mise en pratique. Il y a un autre passage dans les évangiles qui nous parle de la mise en pratique, c'est la différence, vous savez, entre la maison sur le sable et la maison sur le roc. Mise en pratique. Il est en train de nous dire, là, Jacques, qu'on peut être gavé d'enseignement, mais si à un moment Dieu nous a parlé et que on n'obéit pas, on ne fait pas ce qui nous a été montré, qu'on diffère, il nous dit quelque chose d'important, c'est que on se trompe nous-mêmes. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa main, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Et en même temps, il nous dit qu'on peut se tromper par des faux raisonnements. À partir du moment où, ayant clairement reçu quelque chose, ça peut paraître un détail, un petit point. On s'est regardé dans le miroir de la parole. Le Seigneur nous a parlé sur un point. Il y a une notion importante là. Si on n'obéit pas sur ce petit point-là promptement, eh bien, on commence à raisonner et à s'expliquer pourquoi on ne va pas le faire. Et à se donner, on reconstruit une propre justice, quoi. Vous allez dire, attends, c'est du bricole, ça peut arriver, hop, on taille la route. Sauf qu'il faudrait y revenir. Parce que si on commence à aller dans les faux raisonnements, Romain nous explique ce qui se passe. On est rapidement, vous savez quoi, plongé dans les ténèbres. Alors, il y a des illustrations qui sont données dans Jacques, on va en lire quelques-unes. Jacques 2, versets 1 à 9. Bon. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne, de faire des différences entre les personnes, quoi, on pourrait dire. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur » et vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout » ou bien, « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du monde qu'il a promis à ceux qu'il aimait ? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Alors quand on lit ce texte, j'ai envie de dire, au premier abord, je pense, rassemblée plutôt, je crois, accueillante. Alors c'est vrai, encore quelques temps, il y a quelque chose qui est remonté, quelqu'un qui est venu avec sa maman, qui n'a pas été pris en compte, on n'a pas eu assez d'égards. Bon, Seigneur, vraiment, viens nous aider. Hein. Mais je crois qu'il y a, l'aspect de la richesse matérielle, c'est un aspect, il ne faut pas le négliger. Très vite venir, ces choses-là. Il y a d'autres aspects aussi. On peut assez rapidement cataloguer, riche ou pauvre, ceux qui ont mon propre système de pensée. Et aller bien vers cela. J'ai une bonne connexion avec cela. Danny Silk qui intervenait, il y a eu quelque chose là-dessus. Vous savez, quand c'est comme ça, ah oui, vraiment, je m'entends bien. Oui, il est bien, cette personne-là. Vous savez, parce que il y a un reflet. Il est bien parce que il me ressemble. Alors, mon moa se porte bien. Je suis bien. Intéressant. Mais bon, celui-là, il n'est pas facile à traire. Hein. Ben oui, il ne me ressemble pas, quoi. Donc, bon, on peut élargir un peu ce commentaire de Jacques. Maintenant, on va voir la définition que... Parce que souvent, on utilise effectivement cet épître de Jacques pour parler des œuvres. Alors, quand on pense œuvre, on pense à action, activité, hein, ça va, on fait des œuvres, etc. Alors, c'est intéressant parce que on va lire un exemple. Il donne deux exemples. Pour illustrer la foi, ce que donne la foi sans les œuvres. Au verset 14, mes frères, donc il pose le décor clairement, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Alors là, on n'y comprend plus rien, un bon évangélique, il ne comprend plus rien là. Attends, Romains 3, verset 28 nous dit « Nous croyons que nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres ». Et maintenant, Jacques nous dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ?» Vous allez voir, il va plus loin après. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre nous vous leur dise « Allez en paix, mon frère, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Et alors là, il va donner deux exemples. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils sur l'autel ? Mais Abraham, c'est le père de la foi. Quelle œuvre a-t-on fait, Abraham ? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que les œuvres de la foi, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alors là, on est complètement à l'opposé de Romains 3, 28. Deuxième exemple. Rahab, la prostituée, ne fut pas également justifiée par les œuvres. Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Alors, y a-t-il finalement contradiction avec ce Romains 3, 28 ? Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Évidemment non. Romains 3, 28 dit « aucune œuvre de la loi ». C'est-à-dire, ce n'est pas le respect des préceptes qui nous justifiera. Ça, c'est clair. Et Jacques nous dit que, une fois qu'on a cru, si vraiment notre cœur est transformé, il va se passer des choses. Et les exemples qui sont donnés par Abraham, c'est intéressant. Il n'a pas monté une association de bienfaisance, Abraham. Son œuvre de la foi, c'est l'obéissance. Il a livré son fils. C'est-à-dire qu'il a renoncé à ce qu'il était plus cher. Voilà l'œuvre de la foi. Ce qui est vrai aussi, c'est que lorsqu'on a cru, lorsqu'on a compris que l'amour de Dieu, ce qu'il avait fait pour nous, alors c'est certain, ça provoque un élan dans le cœur. Et dans le cadre de la reconnaissance qu'on veut montrer à Dieu, on a envie de transmettre. Et finalement, c'est la foi qui agit par l'amour qui a été déposé. Et donc, ça va être important dans les œuvres, parce qu'il y a quand même des actions concrètes qui nous sont demandées. Je prends que l'hospitalité, par exemple, ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas... Non, ça ne se fait pas tout seul. Mais ce qui va être important, c'est de savoir quels sont nos moteurs. Quels sont nos... Qu'est-ce qui nous motive là-dedans ? Parce que, de nouveau, on peut faire des œuvres devoir. Et on n'y échappe pas, parce que je vous parle de choses très simples. Mais il faut vraiment qu'on veille, quoi. Parce que si on fait des œuvres de voir, rapidement, ça va être compliqué, quoi. Mais quand même, je fais ça, puis les autres font rien, puis machin, puis truc. De nouveau, ça va coincer, quoi. Alors, je vais aborder quelques points que nous avons à mettre à disposition. Pour que des œuvres puissent se faire, il faut que, comme Abraham, on ait souvent abandonné, lâché prise sur ce qui nous était le plus cher. Ça peut être souvent, ça peut être au niveau familial. Il y a tous ces liens qui sont bons, des liens entre un mari et une épouse, c'est des bons liens que Dieu a voulu, avec des parents vis-à-vis de leurs enfants, c'est des bons liens. Parfois, ils peuvent prendre une place qui va un peu entraver Dieu dans ce qu'il veut nous faire faire. Donc Dieu nous amènera progressivement, ou d'un coup, des fois, à dire, bon, eh oh, tu lâches, là, je puisse aussi m'en occuper. Et puis, je vais parler de choses très concrètes. Pour que des œuvres, que les œuvres que Dieu a préparées d'avance et les œuvres de la foi puissent se faire, on dit souvent, Seigneur, je te donne tout. Alors, il nous entend. Ça veut dire qu'il y a la question des biens et de notre argent. Pas souvent qu'on en parle, ça. J'en suis où là-dessus? Est-ce que je considère que ça m'appartient ou que j'en suis le gérant? Voilà qui fait partie des œuvres. Je rappelle, on va lire là-dessus un passage de Paul qui avait organisé une collecte. Voilà une œuvre. C'était une œuvre de bienfaisance pour d'autres chrétiens qui étaient dans le besoin. Et Paul va avoir à cœur d'organiser cette collecte. Ce texte est intéressant parce que, avec beaucoup de délicatesse, Paul dit des choses assez fortes quand même. Donc en 2 Corinthiens 8, je vais lire les versets 1 à 15, puis je vais les commenter au fur et à mesure. Nous vous faisons, 2 Corinthiens 8, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Intéressant ça. Les églises de la Macédoine, apparemment constituées de beaucoup de pauvres, ont réussi à réunir une collecte impressionnante. Ils ont donné avec libéralité. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Et je crois que là, on a une clé. On a une clé. C'est pas le Téléthon, là. On peut donner de tout cœur au Téléthon. Hein. Mais vous voyez qu'il y a eu quelque chose qui a précédé. Le Seigneur a ouvert les vannes. Il a brisé les cœurs, et du coup, ils ont cassé les tirelires. Pas pour être sauvés. Il y a quelque chose de... Je voulais dire, c'est un idéaliste. Si c'est de ça, je veux dire. Vraiment, j'ai vécu des choses dans les débuts de la conversion. Je crois que ce que le Seigneur nous donne au début de la conversion, il met tout dans notre cœur. La graine, elle est complète. Il ne nous met pas une demi-graine quand on se convertit. Il met des choses dans les cœurs. Et je te dis aussi ça, si certains disent, oui, mais bon, ça, j'étais jeune converti, alors bon, j'avais un seul, mais maintenant, quelle sagesse on a trouvé en tout ça. Quand Dieu vient vraiment, quand il y a la présence de Dieu, nos cœurs sont ouverts. Et ça produit de riches libéralités. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencée. Écoutez bien ce verset. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous, qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Ça c'est dit. Hein. Vous relisez ce texte. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avait eu la volonté dès l'année dernière. Paul est en train de dire aux Corinthiens, de leur rappeler, oh, je voudrais savoir parler comme ça, hein, de leur rappeler, dites, Vous avez, avec enthousiasme, dire « On va aider nos frères là-bas !» Un an après, il y en a qui ont commencé, mais pas tous. Vous avez vu comment il le dit bien, Paul ? Mais il le dit quand même. Il dit « On peut avoir des élans du cœur, mais à un moment, il faut que ça se concrétise. Si Dieu nous a parlé, alors on agit. » Et là, ne nous cachons pas, là, des montagnes de raisonnement peuvent arriver. Des montagnes de raisonnement. Mais quand même, il faut quand même... Finalement, Seigneur, on va attendre. On va attendre, il faut être sage. Alors, on va en parler tout à l'heure de la sagesse. Alors, ce qui est important dans ces affaires-là, je vais parler sérieusement, enfin, je parle sérieusement. L'œuvre de Dieu, elle a besoin aussi de ce que nous possédons. Tout appartient à Dieu, et ça, quand on se convertit, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on saisisse. On met des fois du temps, et puis ça s'installe, mais... Tout appartient à Dieu. On proclame souvent « L'or et l'argent lui appartiennent ». Souvent, dans les lieux, on parle « ça, bon, l'or et l'argent t'appartiennent, donne-le-moi donc ». Non, l'or et l'argent lui appartiennent. Il l'oriente comme il veut. Donc, notre or et notre argent lui appartiennent. Ce n'est pas que celui de mon frangin. Ce n'est pas que celui dont je dis « Moi, je vis par la foi ». Tu ne vis pas par la foi, tu vis par la foi des autres, puis par leur travail. Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Les héros de la foi, il peut y en avoir aujourd'hui. Des vraies personnes qui vivent par la foi. Georges Müller a vécu par la foi. Il s'interdisait des fois même à des collaborateurs de dire la situation où il se trouvait. Pas pour lui, pour l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Il y a des fois, il priait avec des collaborateurs, des fois, il ne disait rien. Pour glorifier Dieu, mettre Dieu à l'épreuve, mais dans le bon sens. Je ne veux pas nous écraser, je ne veux pas m'écraser, mais je crois que le Dieu n'a pas changé. Alors soyons concrets, combien et comment donner ? La parole nous dit, donner sur ce que l'on a et non sur ce que l'on n'a pas. Dieu, en même temps, il est sage. Et vous savez que cette parole-là, elle est utile. Combien de chrétiens dans un zèle charnel donnent, et vont priver leur propre famille. C'est contraire à la parole. Oui, ça vous surprend peut-être. Hein, je ne décourage pas à donner, mais il y a toute une sagesse. Donner, par contre, de tout son cœur. Ne pas s'exposer à la détresse. Dieu ne nous demande pas de nous exposer à la détresse. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Certes, la veuve a donné une piécette dont il lui a dit que c'était son nécessaire. Dieu peut nous conduire parfois par révélation, sur des actes de foi très précis. Mais, peut-être un peu quotidien, un peu, mais d'une manière globale et générale, il nous demande de donner de tout notre cœur, de donner selon nos besoins, de ne pas nous exposer à la détresse. On peut être dans l'orgueil, moi je donne à l'œuvre, etc. Mais on est en train de se paumer là. Par contre, il nous demande de bien gérer ce qui nous est confié pour pouvoir donner. Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait, bon évidemment, pas dérobé, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc c'est important, il nous demande d'être un bon gestionnaire. Si on ne l'est pas, ben Seigneur, on te demande. Vous voyez, ça je pense,
une petite incursion. Ça fait partie de choses qui ont été soulevées dans les propositions. Un certain nombre, parmi nous, sont sauvés, connaissent Dieu. Mais peut-être dans notre vie, on a eu, les uns ont eu une éducation qui leur a appris à structurer, etc. Les autres ont eu des parcours différents, ça a été compliqué. Et puis tout simplement, sur des choses pratiques de la vie, c'est un peu le bazar. Le Seigneur, il nous sauve. Qui apporte le salut par rapport à ces choses-là? C'est que ça dispose nos cœurs à entrer dans des choses peut-être contre lesquelles on s'est rebellé avant. Peut-être quelqu'un a été un mauvais élève parce qu'il était révolté, il était machin, il a dit « bon, l'école, j'en ai rien à fiche, bon, etc. » Bon, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais en tout cas, je n'ai pas fait tout à fait ce que j'aurais dû faire. Après, on s'y remet. Hein. Quand on n'a pas compris le premier tour, on s'y remet. Mais donc, quand on connaît le Seigneur, après, normalement, ça dispose notre cœur à dire « oui, dans le fond, j'ai vu ça, dans ma vie avant, c'était comme ça, c'était un peu un cata. » On ne va pas s'étendre là-dessus, tu peux tout recommencer. Si tu acceptes d'être aidé, ce coup-ci, d'accepter d'être enseigné pour, je dis ça, par exemple, bien gérer ses biens. Nous sommes responsables de ce que Dieu nous confie. Un point que j'ai évoqué dimanche dernier, un peu rapidement, je n'avais pas prévu, mais je voudrais revenir là-dessus. Des fois, il y a des conceptions assez légalistes. Et sur certains côtés mystiques, moi, je donne, mais voilà, je... Non, pas de déduction fiscale, pas de choses comme ça, ça c'est du monde, etc. Je rappelle que ce qui est fondamental, c'est la disposition de mon cœur quand je donne. Je vais prendre des exemples chiffrés, comme ça. J'ai à cœur de... Voilà, je sais que mon budget me permet, j'en sais rien, de donner 100 euros par mois à l'église. Je repréciserai l'église avec les œuvres. Ça, c'est, je sais, j'ai changé avec mon épouse. On a regardé nos finances, les finances du foyer, les enfants. Enfin bon, il y a diverses situations où je suis seul, etc. Voilà, j'ai mon loyer. Bon, et on m'a montré. Tu peux donner 100 euros par mois. Mais si par la déduction fiscale, je crois que c'est 60%, je ne sais plus trop, quelque chose comme ça. Si j'ai 60% de réduction d'impôts parce que je paye des impôts, ça va me permettre de donner combien, grosso modo? 60% de réduction sur... ça va peut-être me permettre de donner au moins 160. Plus que ça, sans doute. D'accord? Si j'ai une réduction d'impôts, je donne 160 euros au lieu de 100, ça va me coûter 160 moins 96, ça va me coûter 54. Vous vous rendez compte? Alors, vous allez dire, mais attends, c'est sordide ton truc. Non, c'est pas sordide. C'est pas sordide du tout. Je suis dans une nation qui s'appelle la France, qui est une nation laïque, et avec une conception de la laïcité qui est ce qu'elle est, et qui a dit, les politiques peut-être pour gérer le problème, ils se sont dit, bon, allez, les cultes, les machins, etc., comme les bonnes œuvres, hein, on ne veut pas s'en occuper, mais dans le fond, ils s'occupent quand même un peu du pays. Bon, allez, on leur accorde un crédit d'impôt. Bon, on leur accorde un crédit d'impôt, c'est tout, que voulez-vous que je vous dise, moi. C'est la loi. Peut-être qu'il y en a qui sont choqués. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc ça veut dire qu'en donnant plus, ce qui compte là-dedans, c'est le cœur. Par contre, celui qui sait qu'il doit donner 100 et qui se dit, avec la réduction d'impôt, ça c'est super, je vais donner 160, je donne 160, mais en fait ça me coûte 54. Moi je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur, le Seigneur le sait. Donc moi ça ne m'inquiète pas, le Seigneur le sait. Attention, ça c'est la route d'Ananias et Saphira. Je ne sais pas si on a la chance ou la malchance. La présence du Saint-Esprit est sans doute pas ce qu'elle est au milieu de nous. Il pourrait y avoir des morts. Vous voyez, c'est concret. De tout notre cœur.
et en vérité. Je me mets devant Dieu et je ne suis pas un religieux mystique et machin. Vous savez, c'est un apport des protestants. Ne mettons pas ça de côté, d'avancer. Nous savons, j'ose parler de ces problèmes d'argent. Ce n'est pas simple, ces problèmes d'argent. Vous savez qu'on ne peut pas servir de maître. Hein. Un frère qui est engagé dans une œuvre, et ça m'a touché un jour, m'a parlé, je lui demandais un peu comment ça se passait. Il a fait des choses en commun et c'était pas facile. Il m'a dit, mais tu sais, dès qu'il y a l'argent, l'ennemi, il y va là. Et c'est quand même son cheval de bataille. Alors osons en parler. Devant le Seigneur, on en parle. On pose les choses. Oui, Seigneur, tu nous travailles sur ces sujets. Et je pense que c'est des sujets où il faut qu'on prie chacun et pour la communauté et pour l'œuvre de Dieu. Dieu est capable de grandes choses. Ce n'est pas le tout de le proclamer. Il faut le croire et le mettre en pratique. Si notre cœur est vrai pour lui, je pense que Dieu fait de grandes choses, y compris sur les aspects matériels. Quand Dieu dit dans la parabole du Samaritain, il a amené à l'hôtellerie, il a laissé de l'argent à l'hôtellerie. Il nous confie des choses. Dieu, il n'a pas de problème d'argent. Par contre, la question de savoir, a-t-il des hôteliers pour tenir la maison? C'est ça la question. L'hospitalité, c'est pas qu'une question d'argent. C'est une question, s'il y a des malheureux, des sans-papiers, des immigrés, tout un tas de choses. Il y a tout un tas de situations. Il y a tout un tas de situations, des situations de détresse intérieure qui amènent des fois des personnes qui ont besoin pour un temps où ils ne peuvent pas les travailler. Le monde a ses solutions. Je ne rejette pas des solutions, des médicaments pour tenir à peu près la route, des machins. Ça peut être pour un temps. Mais le fond du sujet, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin, un moment, de repos, de l'hôtellerie, où le Seigneur veut les déposer. Le Seigneur est prêt à donner l'argent. Mais y a-t-il quelqu'un pour s'occuper de l'hôtellerie? C'est ça la question. Y a-t-il quelques vies livrées pour s'occuper de l'hôtellerie? Quand il y aura les vies livrées, il enverra l'argent, il n'a pas de problème. J'en profite pour vous dire que nous avons à distinguer, je m'arrêterai là, j'irai plus loin une autre fois, nous avons à distinguer au niveau, vous voyez, je suis dans le concret, hein. Vous savez que nous avons une association cultuelle dont l'objet est de rendre le culte, ce que nous faisons là, les clubs bibliques, tout ce qui est, entre guillemets, spirituel, enfin bon, pour le monde, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, qui a trait à rendre un culte, hein, selon les bases d'une profession de foi, etc. Je dirais à peu près tout le reste. Alors, je vais prendre des exemples. La librairie, la bibliothèque, si on organise une sortie avec les jeunes, si on peut imaginer que, des petits camps de vacances, même des structures, tout ça, ça relève, pour l'État, du culturel. Et nous ne pouvons pas faire des vases communicants d'une caisse dans l'autre. Je vous dis ça parce que c'est très concret. On discuterait avec le conseil. Mais assez rapidement, on demandera chaque mois ceux qui ont à cœur les œuvres dans lesquelles nous entrerons de pourvoir pour des besoins qui seront explicités. Et donc, sans doute, un dimanche par mois, on mettra quelque chose dans l'urne. Toujours selon le même principe. On ne passera pas une corbeille. Hein. On ne passera pas une corbeille. Que chacun donne selon son cœur. Mais voilà, je vous l'explique, on y reviendra, mais pourquoi on sera amené à faire ça. Je termine avec un point, c'est bien notre argent, c'est nos dons aussi. Nos dons, nos talents. Les dons spirituels, ils sont pour l'édification du corps. Mais il y a aussi nos talents,
naturel que le Seigneur nous confie. Ils ne sont pas non plus pour nous glorifier, nous, et c'est toute la difficulté. Ils doivent être mis à disposition de tout cœur et avec simplicité et avec fidélité. Alors, comme j'ai pris un peu de temps à autre chose, je vais m'arrêter là. Je poursuivrai là-dessus sur la question de la fidélité dans les services. Un verset qui dit « Beaucoup proclament leur bonté, mais un ami fidèle qu'il trouvera. » La fidélité. Il y a là une clé de la puissance de Dieu dans son œuvre, dans son Église et dans l'impact sur le monde. La fidélité dans les petites choses. Bien assemblée, ça fait de grandes choses. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur, tu es notre Dieu, notre Père, et ce matin, je veux simplement te demander, Seigneur, pour chacun de nous, nous voulons te connaître davantage, Seigneur. Nous voulons te chercher. Il est temps de te chercher, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, viens encore ce matin renouveler. Peut-être tu veux bousculer des choses dans notre regard. Peut-être notre vie est-elle devenue religieuse, Seigneur. Nous avons trouvé un espèce d'équilibre, Seigneur, et tu viens nous secouer tout à nouveau. Seigneur, nous courons à toi, Père. Nous courons à toi, parce que peut-être que ça vacille, peut-être que dit, mais alors, je suis trompé, mais Seigneur, nous savons, nous avons besoin que cet amour que tu as déversé dans nos cœurs, il soit renouvelé, que tu viennes nous le rappeler. Alors, Seigneur, nous aurons l'audace. Nous aurons l'audace, Seigneur, de te dire oui et de faire les pas qui sont nécessaires. Je te remets, Seigneur, notre assemblée. Merci, Seigneur, de ce que tu as voulu qu'ici, dans cette ville de Rennes, Seigneur, dans ce quartier, Seigneur, tu nous assembles. Seigneur, nous voulons, oui, sortir de porte, mais pas n'importe comment, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, aller combler quelque chose qui n'aurait pas été traité par toi. Mais nous voulons vraiment entrer dans les œuvres que toi, tu as préparées. Viens à notre secours, Seigneur. Amen.